Je
Merci.
propose qu'on passe maintenant à la communication de Philippe, hein, qui va de toute façon rebondir sur toutes ces thématiques, puisque l'autonomie, tu en as parlé, Pierre, est un élément clé aussi de ce mouvement-là, hein, de cette construction.
Bonjour, bah, moi je vais donc faire cette communication punk et autonomie en France, compagnon de route et malentendu, si j'arrive jusqu'au bout. Et directement, on va aller à la première partie qui s'impose. Qu'est-ce que l'autonomie? Alors, au départ, il y a ce qu'on appelle les luttes autonomes, c'est-à-dire s'engager politiquement ou socialement en dehors des partis, des syndicats et même du tissu associatif classique. Et dans les années 70, il y a un mouvement qui se définit comme mouvement autonome ou autonomie, qu'on peut classer à extrême, extrême, extrême gauche et qui s'inspire de théories anarchistes, fédéralistes comme la Commune de Paris, conseillistes comme les conseils ouvriers et marxistes. C'est une recherche de l'émancipation totale vis-à-vis du capitalisme, vis-à-vis de l'État et du système parlementaire et vis-à-vis des corps intermédiaires, donc syndicats et partis. Et les autonomes pensaient qu'avec une accumulation de luttes locales sur les besoins de chaque petit groupe, cette agrégation de luttes finirait par faire tomber l'organisation politique et économique. Ils se réclament d'une démocratie directe et locale. Une pensée forte, c'est le refus du travail et de la valeur marchande. Et puis, veulent imposer quelque chose qui s'appelle le communisme immédiat, c'est-à-dire on n'attend pas la société future pour mettre en pratique ses idées. Et le communisme immédiat, c'était par exemple ne plus payer de loyer, ouvrir des squats ou même piller les supermarchés. On aura bien compris que la violence et l'illégalité ne sont pas des frontières indépassables. Et pour donner un exemple concret récent de lutte autonome, en tout cas, ça ne veut pas dire que tous les gens qui s'y agrégeaient se considéraient comme des autonomes. Par exemple, Notre-Dame-des-Landes, ça rassemble bien des gens qui ne sont pas dans des partis ou des syndicats, qui en tout cas ne rentrent pas dans la lutte en s'affichant tel quel. Et je préciserai aussi qu'aujourd'hui, il y a toujours un courant autonome, mais qui ne veut plus qu'on l'appelle comme ça, même si leurs références et en gros leur logiciel de pensée reste à peu près le même. Grand B, l'apparition en France. Il y a un préalable, c'est l'Italie. 73, l'autonomie ouvrière qui se passe donc avec des jeunes ouvriers en usine. Et puis en 77, l'autonomie désirante concerne plutôt des étudiants et des chômeurs et des précaires. Et donc la première plutôt lutte des classes et la seconde sur ses désirs personnels. Et en fait, c'est les Brigades Rouges qui ne sont pas un groupe autonome, qui est un groupe de lutte armée maoïste. Avec l'enlèvement et l'assassinat de Aldo Moro, ça va provoquer bien sûr une répression qui va aller bien au-delà des brigades rouges et qui va toucher toute l'extrême gauche, y compris l'autonomie. Et l'expérience va continuer après, mais vraiment de manière moindre. En France, il y a une première revue à partir de 71, il y en a encore plus à partir de 74, et surtout, il y a des apparitions médiatiques au grand jour, on dira en 76-77. Ce qui rapproche punk et autonome, grand A influence politique commune, il y a l'inspiration libertaire, je dirais que pour les autonomes, elle est totalement politique, alors que chez les punks, elle est plutôt existentielle. Il y a l'influence inconsciente, ça veut dire que vraiment les premiers punks n'avaient pas connaissance de ça, mais de l'international lettriste, qui est donc une avant-garde à la fois artistique et politique du début des années 50. Et par exemple, il y avait des jeunes lettristes qui se peignaient des slogans directement sur les vêtements. Une influence plus consciente, j'appellerais ça le bain culturel des grands frères ou des grandes sœurs ou de l'environnement. Donc des gens plus âgés que les premiers punks qui vont avoir eu des lectures politiques ou qui vont avoir entendre parler de certaines choses. Et forcément, des gens plus jeunes en auront une connaissance moins précise, mais vont en entendre parler aussi. Et là, je pense précisément à l'international situationniste, donc qui a influencé mai 68 et l'autonomie. Donc la suite de l'international lettrisme, mais à partir de la fin des années 50. Et on peut citer par exemple Bulldozer, le groupe dans lequel il y a une référence explicite aux situationnistes. Chez Béruriers Noirs, l'idée de l'émeute comme fête, ça c'est quelque chose quand même qui vient des situationnistes, consciemment ou pas. Le fier de ne rien faire des Olive Einstein, le refus du travail. Le mode d'écriture du groupe OTH, je donne un exemple, je croyais à un mode de vie, ce n'était qu'une vie à la mode. Ça c'est un procédé stylistique dont les situationnistes ont abusé. Et puis par exemple Alain Pacadis, le dandy du début du punk, qui lui-même est passé par des groupes autonomes du début des années 70, et quelqu'un comme Yves, qui avait créé le label de cassette Visa, et puis qui a rejoint l'expérience du label Bondage, et qui lui-même m'avait dit qu'il lisait la revue L'International Situationniste quelques années auparavant. Et puis il y a l'influence de l'Angleterre en France. Malcolm McLaren a fait partie d'un groupe inspiré par les situationnistes King Mob. Et Jimmy Reed, qui était responsable des visuels des Sex Pistols et des vêtements, a pratiqué le détournement, les collages, et lui-même était influencé par les situationnistes. Et ça a rejailli en France, évidemment, au moins stylistiquement. Grand B, la culture politique commune, une culture politique commune, bah, dans les deux, il y a le refus des idéologies en tant que corpus d'idées figées ou trop figées. Il y a le refus de l'autorité, de toutes les autorités et des hiérarchies, qu'elles soient parentales ou de l'école ou de l'armée ou de tas d'autres choses. Il y a le rejet du vieux monde, qui n'est pas une expression inventée par Emmanuel Macron. Les situationnistes en ont aussi énormément usé. Le rejet des aînés, alors chez les autonomes, ça va être le rejet des organisations gauchistes, qu'elles soient trotskistes ou maoïstes, qui les ont précédées. Et chez les punks, ça va être le rejet des hippies, la génération d'avant, ou des groupes rock dinosaures. Le rejet du pacifisme, de la non-violence et des mouvements trop « gentils », entre guillemets. La glorification des classes dangereuses, donc c'est un peu le lumpen prolétariat de Marx, qui a été théorisé par l'historien Louis Chevalier, repris par Guy Debord dans l'international situationniste, et par exemple les situationnistes italiens ont inventé le concept de banditisme révolutionnaire qui brouille les pistes avec à la fois des politiques et des droits communs qui vont pratiquer le vol ou le pillage. Et par exemple, la chanson, même si l'influence n'était pas aussi précise, la chanson de Caméra Silence, Classe Criminelle, vraiment quand on la relit, on sent cet état d'esprit, et si j'ose dire, la vie de Gilbertin en est presque une illustration. L'ambiguïté sexuelle et la provocation, par exemple Les Gasolines, qui était un groupe dans lequel il y avait des transsexuels et des travestis, et qui était une espèce de groupe autonome avant la lutte, qui pratiquait beaucoup la provocation, a inspiré le groupe punk Gasoline, qui a émergé en 77. Les Gasolines, c'était le début des années 70. La radicalité, l'humour, la provocation, les slogans, je vais vous citer juste deux slogans peints sur les murs ou dits en manif par les autonomes, et on dirait vraiment des textes de musique punk. Ni trop tôt, ni trop tard, ni trop glycérine. Et puis, par exemple, le travail, c'est le goulag, plus la clim. Grand C, les pratiques communes, je parlais tout à l'heure de la deuxième vague autonome de 77 en Italie, de l'autonomie désirante. C'est les premiers à avoir organisé des concerts dans les squats, à avoir fait des fanzines entre politique et culture, et avec l'expérience aussi de la radio pirate Radio Alice, qui a eu un lien direct avec les premières radios pirates en France, puisque c'était des autonomes français qui allaient chercher les émetteurs en Italie et qui les ramenaient en France. L'explosion des radios libres, et puis les labels indépendants, la cassette, qui a été très importante au début dans le punk en France, et le do-it-yourself du punk, qui est un peu une transposition. La fétichisation de la violence, alors violence réelle chez les autonomes, un tout petit peu réel chez les punks, mais surtout symbolique. Et puis le fait de brouiller les pistes, c'est-à-dire chez les autonomes, on ne veut plus de militants politiques professionnels. Chez les punks, on veut que les gens soient acteurs et non pas consommateurs. C'est un peu la même chose. Et la pratique des concerts de soutien dans les squats, qu'on commençait avec les autonomes, pour les détenus, les mal logés, les sans-papiers, contre la répression policière, contre les expulsions. Et ça, ça a concerné énormément de groupes punks. Grand D, les thématiques communes. Alors ça, c'est simple, dans les textes, le mot autonomie revient dans plusieurs textes de groupes français. C'est pas tout à fait la même référence que les Buzzcocks, où c'est vraiment une autonomie existentielle. Là, c'est plus politique chez les Français. Et puis, il y a la critique de l'école, il y a les émeutes comme fait, je le disais tout à l'heure, la violence contre la police, contre la prison, contre la psychiatrie, des textes sur les squats, contre le travail et son corollaire, l'argent, et sur la vie quotidienne, ça, les situationnistes et les autonomes étaient pour une espèce de fusion du politique et de la vie quotidienne. Grand E, les origines sociales, ce qu'on peut remarquer au début de l'autonomie parisienne, puisque ça débute à Paris, c'est plutôt des gens de moyenne et grande bourgeoisie, et on remarquera que dans le punk, il y a le rôle central d'élèves du lycée Charlemagne dans le quartier du Marais, qui certes n'était pas un quartier aussi bourgeois qu'aujourd'hui, mais c'était pas non plus le trou du cul du 19e. Et puis après, il y a une extension à la petite bourgeoisie et aux classes sociales plus populaires, dans les deux. L'agrégation à l'autonomie de jeunes de banlieue plus dure à partir de 79, et la deuxième vague punk, on va dire à partir de 80, qui pour Paris venait aussi beaucoup des banlieues et qui était également plus dure. Et aujourd'hui, dans les deux, on remarque que c'est plutôt d'une manière générale des classes moyennes blanches. Troisième partie, proximité spatio-temporelle et similitude de vie. Ok. et puis je passe directement au grand A, le tronc commun chronologique. Le tronc commun chronologique, les prémices de l'autonomie parisienne et du punk, c'est au milieu des années 70, et pour les deux, l'explosion au grand jour, c'est 76-77. Pour les autonomes, c'est les premières réunions publiques, des manifestations débordées et des actions, comme par exemple le pillage des magasins Fauchon. Et chez les punks, les mêmes années, concert des Sex Pistols au Chalet du Lac, festival de Mont-de-Marsan, nuit punk au Palais des Glaces. Et un épisode rigolo, entre guillemets, c'est quand les autonomes attaquent les trotskistes de la Ligue communiste révolutionnaire lors de leur fête du Journal Rouge, pendant le concert des Clash. Et puis, grand B... Fonctionnement similaire, ben ça c'est assez simple. Dans les deux, il y a la spontanéité, le regroupement par petits groupes affinitaires et le phénomène des bandes. Grand C, les modes de vie. Il y a la rupture de banc familial qu'on observe dans les deux milieux, départ prématuré du foyer familial. Et il y a un exemple qui transcende les deux, c'est la fugue concertée des mineurs en lutte en 1978. Elle est coordonnée et placée sous la protection d'autonomes. Et ensemble, ils vont faire un journal qui s'appelle Titre. Ensuite, il va s'appeler Péril Jeune. Et au début des années 80, il deviendra le fanzine New Wave. L'importance de la rue, être dans la rue, passer du temps dans la rue. Et je prends pour exemple un groupe d'autonomes qui traînait au hall, qui s'appelait la Bande Agile, et qui a fréquenté de très près la raya punk de l'époque. Et puis évidemment, le squat. Alors chez les autonomes, c'est une conception politique du communisme immédiat dont je parlais tout à l'heure, et un déplacement du lieu d'organisation révolutionnaire, c'est-à-dire classiquement c'était l'usine pour l'ouvrier, et là ça serait le squat pour le chômeur, le précaire ou le punk. Et chez les punks, c'est une nécessité de survie quand on a quitté la famille tôt, un mimétisme par rapport à ce qui se passait en même temps en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas, et un lieu de convivialité pour voir des concerts et se retrouver. Dans les deux cas, il y a également l'alcool et les drogues qui sont vus comme des modes de vie libres ou des moments festifs et qui entraînent dans les deux cas des pics de paranoïa, des pics de violence, des déchéances personnelles, des morts lentes ou rapides. Et puis la délinquance, je parlais du banditisme révolutionnaire chez les autonomes, avec une pratique au quotidien, grève des loyers, ouverture de squat, le basket, partir en courant sans payer d'un restaurant ou d'un bar, le vol, les trafics de chéquiers ou de pièces d'identité, prendre le métro, le train sans payer, et parfois même des braquages. Et il y a certaines pratiques qui ont été reprises par les punks dans les années 80. Le fameux timbre savonné, donc par exemple, je fais un label, j'envoie des disques, je mets du savon sur mes timbres, ils sont oblitérés. Et l'autre, quand il le reçoit, il gratte un peu avec son ongle, il n'y a plus de savon, il n'y a plus d'oblitération, il réutilise les timbres. Et le TGV, au départ, qui était très peu surveillé, je fais un label, je suis à Paris, il y a un distributeur qui est à Lyon, je lui dis, j'ai mis 50 disques dans tel wagon à tel endroit, et arrivé à Lyon, il vient les chercher, et on n'a pas payé de frais de port. Et le blocage des compteurs électriques, par exemple, qui s'est pratiqué par plein de punk dans les années 80 et 90. Tissu des squats et politique répressive gouvernementale, ben les premiers squats autonomes ils sont ouverts en 74. Les premiers squats qui regroupent des punks et des autonomes, c'est à partir de 81, notamment dans le 20e. Le projet du centre autonome occupé qui n'a jamais vraiment vu le jour, et le squat de l'usine à Montreuil en 84. Et évidemment, les expulsions, elles ont concerné les squats et les petits lieux de concert précaires et pas aux normes dans des quartiers qui était, enfin, la rénovation urbaine y était prévue. Quatrième partie, punk et autonome, compagnons de contexte et de circonstances. Et grand A, les lieux de concert. Bon, il y a plein de premiers concerts punk en France qui ont été organisés dans des lieux autonomes, comme le théâtre Mouffetard, qui était vraiment un repère d'autonomes, les facs, en règle générale, les squats, évidemment. Le concert, justement, on parlait de No Wave, les Américains. Premier concert de ces artistes américains ont été organisés par le groupe autonome Marge. Les festivals Rock Against Police, qui était une agrégation d'autonomes et de jeunes de banlieue. Puis le tissu des squats dont je parlais tout à l'heure. Le service d'ordre, le premier service d'ordre de Béruyer Noir, où il y avait quand même pas mal d'autonomes, dont un certain, je ne sais pas s'il veut être cité, donc on l'appellera D. Et puis après, la généralisation des squats en France... La généralisation des squats en France, dans le reste de la France, à partir de à peu près 85, les concerts organisés au Centre international de culture populaire par le Scalp Reflex et encore aujourd'hui par d'autres groupes, et aujourd'hui le vivier de Montreuil-Bagnolet, qui est à la fois un repère de punk et d'autonome, la pratique du prix libre qui vient de l'autonomie et qui est encore partagée aujourd'hui par plein de concerts punk. B, les fanzines et les radios. 76, Gare du Nord, qui était un fanzine qui a consacré un numéro au punk et à l'autonomie, et son créateur, jusqu'à sa mort récente, s'impliquait dans des groupes autonomes jusqu'à peu. le fanzine New Wave dont j'ai parlé tout à l'heure, le virus, le fanzine des squats des vilains, et puis je cite Molotov et Confetti, Manifeste, Alerte Rouge, et des radios créées par des autonomes ou des anarchistes, 80 Radio Tomate, qui recevait donc des émissions punk, Radio Mouvance où il y a même eu des concerts dans les locaux, et depuis 92 Fréquence Paris Pluriel. Je vais aller direct à ma conclusion. Tant pis, il y avait les luttes collectives, je passe. Et les inévitables malentendus, ben je dirais pour conclure que le punk, c'est avant tout un cercle culturel qui se teinte de politique, alors que l'autonomie, c'est un cercle politique qui veut politiser la culture. Et donc, il y a forcément des malentendus entre les deux courants. La radicalité du punk, elle me semble plus symbolique, littéraire, musicale que politique. Le punk est avant tout une rébellion individuelle, une radicalité politique, et la radicalité politique des autonomes peut être vue, elle aussi, comme très contraignante. Je pense aussi qu'il y a des groupes qui ont été un peu proches de l'autonomie au départ, et lorsqu'ils ont pris leur essor et que finalement beaucoup de leur activité était centrée sur le fait de faire des concerts et faire des disques, il y a des autonomes très très idéologisés qui leur reprocheront de ne plus être assez près de l'activisme politique. Je finirai par dire que les deux milieux sont quand même, même s'il y a toujours des liens, se sont quand même pas mal éloignés parce que le punk, il est aussi influencé par l'évolution inhérente de la société dont il est le produit. Et aujourd'hui, par exemple, c'est une culture qui est quand même beaucoup plus normée. Et on trouve parmi des punks des gens qui ont des pensées assez réactionnaires, par exemple sur le soutien inconditionnel à la police, qui était un peu inenvisageable avant. La reconnaissance du travail comme une valeur. Et par exemple, la méfiance vis-à-vis des musulmans. On peut entendre plein de punks aujourd'hui qui ont ce discours. Et du coup, chez les autonomes, on a quand même une lecture beaucoup plus radicale, ce qui éloigne les deux pôles. Et voilà.
Merci, Philippe.
Et j'ai des remerciements.
Donc,
voilà, vous pouvez les lire. Et vive les Gilets jaunes de Commercy, qui sont les premiers à mettre en œuvre une véritable démocratie directe dans leur fonctionnement.
Et donc, pour rebondir sur ton... Oui, on va donner la parole tout de suite à quelqu'un. Mais effectivement, de toute façon, dès qu'on... touche aux idéologies, aux termes aussi vagues ou précis qu'anarchisme ou autonomie, évidemment, ça englobe énormément de choses. Ce que tu as montré, c'était aussi la quatrième partie qui était intéressante, c'est-à-dire cette connexion punk et autonomie qui n'est pas toujours viable. Et moi, je l'ai ressenti quand nous, on est parti des squats des vilains pour créer un squat, notamment Mickey de la Cantada, qui a créé le squat de Bozzaris, et qui était un squat punk, autonome, disons, globalement. Mais qui rassemblait aussi des bikers et des gens un peu différents. Donc, voilà. Qui veut intervenir sur toute cette mouvance, des questions, des interrogations ? Alors, c'est vrai que c'est très difficile parce que ça mériterait... Bon, il a fait un très bon documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu. Tu peux en rappeler le titre, déjà ?
Lutter ici et maintenant. Lutter c'est sur l'histoire des luttes autonomes, et donc voilà, il y a une partie voit, consacrée à l'autonomie.
On voit apparaître, justement, tu as parlé de Marge, Camarade... Harry, par exemple, hein, qui était dans Molotov et Confettif, qui a fait beaucoup de fanzines de type communisme immédiat, justement, et d'autres squatteurs qui ont ouvert des squats et qui ont passé leur vie, en fait, à être en marge de la société et à lutter contre un certain nombre de choses qu'ils n'acceptent pas, quoi. Donc... qui a des questions sur cette connexion punk-autonomie qui est assez différente de ce qui s'est passé en Angleterre, effectivement.
Le politique est nettement moins fort en Angleterre, quand même.
Bonjour, je suis là. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation,
c'était
super intéressant.
Vous présentez juste rapidement.
Oui, je m'appelle Aude et je suis sociologue. Pas du tout, je suis sociologue du travail, donc rien à voir. Mais voilà, c'est juste, je viens par curiosité.
Du travail.
Oui, du travail, oui. Et j'avais juste une question à un moment où vous avez dit que les autonomes ne souhaitaient plus être appelés autonomes aujourd'hui. Et du coup, j'avais une petite question juste pour savoir pourquoi et du coup, comment ils se faisaient appeler.
Leur rêve, c'est qu'on ne les appelle pas. C'est qu'on ne les désigne pas par rien. Ça tient de leur volonté d'abolir les frontières entre militantisme et le reste de la population. Et de dire que, de toute façon, les conditions de vie vont faire que ça va être n'importe qui va s'engager de la même manière qu'eux, de manière autonome. Du coup, c'est une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas être appelés. La deuxième, je pense, c'est que l'autonomie, telle que j'en ai parlé, il y a eu aussi en France une répression assez forte en 79-80, qui fait qu'elle s'est largement amoindrie. Il y a le fait aussi que, quand François Mitterrand a été élu président de la République, il y a quand même pas mal qui se sont dit bah, c'est plus la peine de lutter, on va obtenir à peu près ce qu'on veut, mais de manière un peu plus institutionnelle. Donc ça s'est désagrégé. Et du coup, il y a un bilan de l'autonomie, on va dire la matrice, que les plus jeunes aujourd'hui n'ont pas envie d'endosser. C'est la deuxième raison. Et la troisième, j'en avais une troisième, et puis je ne sais plus. Brouiller les pistes aussi, tout simplement. Bon, après, je pense que les renseignements généraux ne sont pas du tout dupes, mais en tout cas, il y a une volonté de brouiller les pistes.
Les autonomes, comme beaucoup de groupes organisés en marge, n'aiment pas qu'on travaille sur eux, parce qu'ils appellent les sociologues des socioflics. Et donc, il y a tout ce fait de dévoiler des éléments de leur fonctionnement qui ne marche pas, quoi, qui peut pas fonctionner, qui n'accepte pas. Et il y a ce côté aussi, peut-être que tu devrais souligner, c'est le côté asocial hein, de certains autonomes qui sont véritablement contre la société, mais contre tout, en fait. Donc il y a aussi une forme d'extrémisme, même au sein de l'autonomie. On a un panel de gens très, très différents dans l'autonomie. Hein. Enfin, je vous recommande son documentaire qui est en ligne, hein, je crois. Hein, qui dit,
il est sur, ouais, sur Dailymotion.
Très bien
en fait, il était pour LCP.
Et qui donne donc la parole à pas mal de gens qu'on a connus, qu'on a côtoyés, les Bérus, mais qui nous ont reçus chez eux et tout. Donc, on était assez proches de leur lutte, de leur façon de lutter.